témoignages, échanges, discussions au réseau Cogeco. Voici Dan Bigra.
Qu'est-ce qu'on fait avec une équipe? Parce que le jingle qui est là, là, il fait swinguer. Puis là, toute mon équipe est en train de faire les caves, en train de danser au plafond. Qu'est-ce qu'on fait avec du monde adorable, que tu adores, puis qui te tombe sur les nerfs en même temps? Je sais pas, on en discutera un petit peu plus tard. Je veux saluer les auditeurs qui nous écoutent, évidemment dans la région de Montréal, mais aussi en Outaouais et en Estrie. J'aimerais ça que vous m'appeliez. La question, c'est êtes-vous inquiet qu'on utilise éventuellement la reconnaissance faciale? Ça se développe à vitesse grand V. Alors, vous pouvez m'appeler au 514-790-9850 ou, en dehors de Montréal, faites juste rajouter le 1-866 au début, 790-9850. Êtes-vous inquiet qu'on utilise éventuellement la reconnaissance faciale? La députée libérale de Saint-Laurent, qui est porte-parole de l'opposition officielle pour le Conseil du Trésor, Marois Risky, a interpellé la protectrice du citoyen à ce sujet. Elle trouve que ça n'a aucun bon sens. La vie privée n'existera simplement plus. Et puis, ça va mettre à mal de nombreux autres droits humains. Moi, ce que Mme Risky dit, moi, j'approuve tout le temps parce que, contrairement à peut-être vous, les auditeurs en masse, moi, je l'ai vu boxer, Mme Vapeur. Bonjour, Mme Risky, ça va bien?
Bonjour. Oui.
C'est vrai que j'ai vu boxer, puis ça rentrait au poste.
J'ai eu quand même un excellent coach à l'UNESCOR avec les princes et les princesses de la rue, donc il m'a donné quelques cours de boxe.
Est-ce que ça vous sert dans vos discussions au Parlement, ça?
Ben, je veux dire que ce qui me sert le plus de ce que j'ai appris d'à l'UNESCOR, c'est la patience, puis d'être rigoureuse dans ce qu'on fait. Parce qu'il faut avoir un rythme. Hein. La boxe, puis moi, j'étais une coureuse, donc je faisais des demi-marathons. Là, j'en fais pas mal moins depuis que je suis en politique. Et je pensais que j'avais un excellent cardio, mais après avoir fait de la boxe, après 1:30 sur le ring, je cherchais mon souffle. Alors, c'est aussi le contrôle. Et en parlant de contrôle et d'être rigoureuse, dans ce que je fais au Parlement, mais je mélange aussi mes connaissances juridiques. Je suis aussi avocate fiscaliste. Mais d'abord et avant tout, oui, je suis avocate. Et pour moi, c'est tellement important la rigueur dans mes propos, mais aussi dans ce que nous, on fait comme travail au Parlement. Et je suis aussi professeure, donc j'aime vulgariser. Pour moi, c'est très important que lorsqu'on sollicite le consentement des Québécois, mais un politicien, pour moi, c'est important qu'il l'explique, qu'il vulgarise, pour qu'après ça, les Québécois...
Ça prend un certain calme. Ça prend un certain calme, effectivement. Ceci dit, quand vous n'en pouvez plus, au bout de 1 minute et demie, là, en boxe, je vais vous donner un conseil. C'est pas parce que vous n'êtes pas en forme. C'est parce que c'est du cardio explosif. Ça se développe, ça. Faut juste faire des mouvements explosifs. C'est très, très, très rapide. Puis notre cœur, première fois qu'on envoie une shot, le cœur, je te jure, il se retourne et il dit quoi? Qu'est-ce que tu veux? Es-tu fou? Alors, c'est pas du tout la même chose qu'un Ironman ou un marathon. Mais bon, là, maintenant, on s'en vient de plus en plus surveillé. Je me demande, à un moment donné, on peut-tu se gratter le nez sans être surveillé quelque part? Ça pose des questions sur les droits fondamentaux des citoyens. Et vous avez bougé là-dessus, là.
Absolument. En fait, ça fait quand même plusieurs mois que je surveille ce qui est fait par le gouvernement, par le ministre délégué à la transformation numérique. Bien avant la COVID-19, il avait cette idée d'avoir des fichiers numériques, pour plus précisément biométriques. Donc, il voulait ficher tous les Québécois avec leur empreinte digitale, mais aussi, par exemple, l'empreinte oculaire, donc notre rétine des yeux. Puis on l'a vu avec l'affaire Desjardins, ainsi que toutes les autres fuites de données massives qu'on a vues, non seulement au Québec, mais partout dans le monde, que lorsqu'on perd, par exemple, notre dossier numérique, bien, on peut, oui, avec beaucoup, beaucoup de travail, vérifier tout ce qui se fait avec les agences, mais imaginez perdre votre empreinte digitale ou votre empreinte oculaire, c'est irrécupérable. Et là-dessus, j'ai demandé qu'on ait un débat sur ce sujet.
Est-ce qu'on peut changer un mot de passe, mais on peut pas changer notre pouce ou notre œil?
Oubliez ça, mais Apparemment, oui, peut-être avoir des changements au niveau de l'œil, mais c'est très compliqué comme chirurgie. Ouais, je vous le déconseille. Mais sinon, c'est effectivement, c'est irrécupérable. Et c'est là tout le danger. Et surtout qu'on sait
de toute façon, je dis à ceux qui veulent changer un de leur œil, mais faites de la boxe avec Mme Risky, ça va rouler tout seul.
Ouais. Ils vont peut-être pas juste l'œil, peut-être le nez aussi. Mais pour ce qui est de l'empreinte oculaire, le dossier biométrique, oui. Ça, c'est quelque chose que le ministre, en entrevue, moi, ça m'a beaucoup surprise lorsque j'ai lu que M. Kerr n'a pas voulu répondre à la question du journaliste Tristan Péloquin dans le dossier numérique biométrique en disant que c'est trop difficile à expliquer pour les Québécois, que c'était seulement un débat d'initié. Je m'excuse au Québec, là, on est assez intelligent pour comprendre lorsqu'on nous explique simplement les termes.
C'est un peu insultant quand on se fait dire des choses comme ça, je trouve. C'est comme c'est un peu trop compliqué pour le monsieur, madame. Je suis un monsieur et puis je prétends pouvoir au moins comprendre des bouts de ce qui se passe à condition qu'on prenne le temps de me l'expliquer comme il faut, là.
Et moi, je disais souvent à mes étudiants que si jamais ils avaient un échec parce qu'ils ont mal compris quelque chose, bien 50% de leur faute, c'est sûrement peut-être eux, mais l'autre 50%, c'est peut-être moi qui ai mal expliqué. Alors là-dessus, c'est au ministre, s'il a l'intention de mettre des milliards de dollars, comme il l'a dit en entrevue, dans le dossier de fichage numérique des Québécois, bien c'est à lui qui revient l'obligation de le vulgariser puis de dire les tenants aboutissants, mais aussi les risques reliés à ça. Et les
parce que nous, on n'a pas donné notre permission, nous autres, comme peuple, là.
Non,
il n'y a pas d'entente avec le peuple québécois. Est-ce que vous voulez plus de sécurité? Êtes-vous prêt à ce qu'on passe aux données biométriques et puis qu'on puisse reconnaître votre visage partout? Ça veut dire qu'on va être filmé partout. Déjà, on l'est pas mal, hein? J'annonce, on se promène sur l'autoroute, on est photographié, on passe devant une banque, on l'est. Il y a plusieurs endroits où on l'est, mais là, si on le devient partout... Et puis, évidemment, ben, il n'y a pas de gestion zéro de tout ça. Ces données-là se font voler. Et puis, on n'est pas encore assez protégé, d'après moi, pour aller là.
On n'est pas du tout protégé en ce moment. Puis, le droit à la vie privée, c'est un droit fondamental, n'en déplaise au ministre. Et là-dessus, moi, ce qui m'étonne, c'est que quand je vois aux États-Unis, le pays de Donald Trump, voir que là-dessus, ils ont eu, eux, un débat public. Le Congrès américain s'est penché sur la question, ainsi qu'à l'Union européenne. Ils ont eu des débats publics là-dessus. Aux États-Unis, ce que le débat a révélé, selon les experts, c'est que dans le cas de reconnaissance faciale, les policiers ont, oui, fait l'acquisition du logiciel, mais pas simplement pour regarder les photos qu'eux ont déjà à l'interne, ce qu'on appelle communément les mugshots. Donc, quand vous êtes arrêté, oui. La police prend une photo de vous, il va être dans une banque de données. Ça, la police a déjà ces photos-là.
On a découvert... Ceux qui écoutent là, puis qui se demandent c'est quoi le mugshot, si vous avez une photo, si vous avez deux photos de vous, une de face puis une de profil, généralement, posez-vous des questions, il y a quelque chose qui se passe.
Puis, aux États-Unis, on a découvert que la police utilisait non seulement sa banque de données, oui. Mais avait aussi pris la banque de données des États fédéraux, c'est-à-dire, par exemple, la photo de permis de conduire pour avoir accès là, à l'ensemble de la population. Donc, tout le monde est dans un line-up de police 24 heures sur 7. Et là-dedans, c'est non seulement sans le consentement des citoyens, mais pire que ça, les risques d'erreur sont excessivement élevés pour les gens de couleur. Il y a 10 fois plus de chances pour les
surprise.
Gens noirs. Oui, ben oui, effectivement. 10% plus de chances, donc 10 fois plus élevé, pardon, si vous êtes une femme noire, de vous faire arrêter injustement. Et d'ailleurs, je vous donne un exemple concret. Il y a eu un vol dans un magasin Apple. Ils ont utilisé le logiciel, ce fameux logiciel. Ils ont arrêté un homme noir. Ils l'ont accusé. L'homme n'était même pas dans la même ville. Et aujourd'hui, c'est lui qui poursuit Apple pour mauvaise identification ainsi que le service de police.
Alors, il y a des grands risques avec ça. On parle juste comment ça se passe en Chine. Non seulement ils sont photographiés, observés, mais le pouvoir peut les regarder à tout moment de la journée. Ils savent exactement où ils sont et ils leur donnent des notes. Si vous êtes un bon citoyen, un moyen citoyen ou un mauvais citoyen, selon le critère du gouvernement, ça devient très difficile de s'opposer à son gouvernement dans ce temps-là.
Exactement. On appelle ça le
totalitarisme. Totalitarisme. C'est la même chose. Moi, quand je dis parasitaire, ça me pique, fait que je me plante.
Je suis pas capable de le dire aujourd'hui. Numérique, et c'est pire que ça en Chine, c'est que ça vous empêche même, par exemple, de prendre le transport en commun quand, que selon le gouvernement, vous avez été un très mauvais citoyen, donc vous n'avez même plus le droit de prendre le transport en commun. Mais si on revient ici, en Amérique du Nord, Lorsque le ministre dit, il me répond en disant que je connais pas très bien mon droit, dans tout respect pour lui, dans un premier temps, oui, je suis avocate, non seulement ici, mais aussi aux États-Unis. Et lorsque il m'insulte moi en disant que je fais peur à la population en les interpellant sur ce dossier, mais il insulte aussi le commissaire à la vie privée canadien, ainsi que la commission d'accès à l'information, ainsi que la Ligue des droits de la personne, un paquet d'avocats, en fait, qui disent clairement la chose suivante. Nos lois actuelles ne sont pas faites en ce moment pour encadrer les nouvelles technologies. Ça fait depuis plusieurs mois que le commissaire à la vie privée fédéral ainsi que la commission d'accès à l'information, donc l'équivalent provincial au Québec, ont interpellé tous les gouvernements en leur disant que ça prend un débat public ainsi que de nouvelles lois pour encadrer ces nouvelles technologies.
Ouais, et de toute façon, quand on prétend que le peuple, le monsieur, madame, tout le monde, n'est pas assez intelligent pour comprendre tous les tenants et aboutissants, mais c'est certain qu'ils ne sont pas si on ne les informe pas. Une fois informés, ils ont une intelligence supérieure des faits. Ce qui nous nuit, c'est pas une capacité de réfléchir, c'est le manque de renseignement, l'ignorance. C'est pas de la faute tout le temps de l'ignorant, c'est de la faute de celui qui a l'information puis qui veut pas la donner.
Effectivement, puis là-dessus, ils ont été bons parce qu'ils ont morcelé les trois sujets. Ils ont morcelé la géolocalisation, donc le dossier de traçage de données. Ils ont morcelé le dossier de stratégie numérique pour avoir le fichage des Québécois biométriques. Et ils ont aussi morcelé le dossier de reconnaissance faciale. Alors que le tout regroupé, là, c'est ça, cet attirail là, oui, complet regroupé qui fait qu'on est capable de surveiller correctement tout le temps les Québécois.
Il y a un proverbe qui dit l'information, c'est le pouvoir. Et oui, je suis d'accord, on peut faire chanter n'importe qui avec ça.
Puis il y a un autre problème qui dit que je ne dirais peut-être pas aujourd'hui en ordre, mais là, sur ce sujet, c'est tellement important d'avoir un débat d'urgence. Moi, j'ai demandé dans l'attente un moratoire, parce qu'aujourd'hui, je ne trouve pas ça normal que le gouvernement laisse la Sûreté du Québec conclure présentement un contrat avec une entreprise étrangère pour avoir accès à la reconnaissance faciale, alors qu'à San Francisco, le bassin où est-ce qu'on a toutes développé une nouvelle technologie, ils ont décidé d'interdire le logiciel de reconnaissance faciale autant pour le gouvernement que pour les sociétés privées et que maintenant plusieurs autres villes américaines ont décidé d'interdire et IBM, Microsoft, Amazon ont décidé d'arrêter la vente de ce produit parce qu'il y a trop de risques de discrimination. Et j'aimerais citer quelqu'un au passage, Brad Smith, qui est quand même le PDG de Microsoft, qui est quand même une personne, je pense, assez articulée pour le ministre Kerr, qui dit lui-même qu'en ce moment, les lois ne sont pas en mesure d'arrêter les nouvelles technologies pour les violations de vie privée.
Donc, ce qu'on comprend, c'est que ça va prendre un débat très, très sérieux et très informé avant que quoi que ce soit dans ce sens-là puisse se faire. Madame Risky, merci beaucoup. Je vous souhaite un débat animé. Je retournerai vous voir boxer, mais je ne m'essayerai pas avec vous. Et puis, je vous souhaite une très, très bonne journée. Merci beaucoup de nous avoir éclairé là-dessus.
Merci à vous, puis au plaisir de vous retrouver sur le ring un jour.
Ça veut déjà m'arracher la tête. Ça va...
Non!
Au revoir, Madame Risky. À bientôt. Merci beaucoup. Alors, c'est Marois Risky, qui est député de Saint-Laurent, porte-parole de l'opposition officielle pour le Conseil du Trésor. On a avec nous, nous on se tutoie parce qu'on s'est parlé quand même plusieurs fois, Steve Waterhouse, qui est spécialiste en sécurité informatique. Salut Steve.
Salut Dan.
Alors qu'est-ce que tu penses de tout ça là?
Bien, c'est effectivement prématuré de conclure que c'est la façon, les outils à aller chercher, la façon de faire.
C'est parce que je trouve ça un peu léger, moi, de conclure rapidement comme ça. C'est comme s'il n'y avait pas de problème, on va vite. C'est très sérieux, là.
Ça comble un besoin, tu sais. Puis le besoin, il y en a qui disent, bien, on réglerait les problèmes après, on va l'implanter, puis comme ça, ça va régler nos problèmes immédiats. Ce qui est faux, ben, ça va les amplifier. Ça va les amplifier parce qu'ils vont trouver après ça d'autres façons de pouvoir utiliser la technologie qui n'est pas encadrée, encore une fois. Puis, tu sais, Dan, je te mets un exemple. Rappelle-toi, il y a deux ans, le centre d'achat à Chinook, le centre d'achat Chinook à Calgary, qui appartient à Cadillac Fairview, pareil comme les galeries d'Anjou, ben eux se sont fait prendre, il y a encore les caméras d'installer sur les affiches électroniques quand tu rentres dans les centres d'achat pour te donner des indications de ce qui sont les magasins. Par erreur, on a appris qu'il y a des caméras qui faisaient de la reconnaissance faciale, et pour documenter les gens à l'intérieur sans en aviser. Et c'est ça qui contrevient à toute la règle, justement, d'aviser les gens s'ils doivent, à ce moment-là, accepter ou pas d'être filmés lorsqu'ils rentrent dans un établissement. Quand tu l'avertis...
Moi, je pense qu'il y a un seul moment où tu n'as pas à les avertir. Moi, j'ai des caméras chez nous. S'il y a un smart qui pense à aller ramasser du stock chez nous, là, j'ai des caméras cachées dans tous les maudits angles. Et puis, ce qui arrive, c'est que j'ai pas son consentement, mais s'il est en train de voler chez nous, moi, je m'en sacre pas mal, là. Puis, je vais peut-être mettre mettre un petit message sur Facebook, gager ta face, viens reporter mon stock.
Ah, c'est certain que ça peut être c'est une façon de le faire, mais la façon à date légale, la façon que c'est défini, il faut que tu avertisses les gens si tu veux.
Oui, et puis, absolument.
Sois avisé que tu vas être filmé.
Il y a des dangers de dérive autoritaire. Steve, je t'ai pris un peu trop tard dans le j'ai eu un peu trop de fun avec Mme Risky. mais je veux te garder absolument. Reste avec nous autres pendant la pause commerciale. Absolument. On va se reparler après. Et j'aimerais que vous me téléphoniez. Est-ce que vous êtes inquiet qu'on utilise éventuellement la reconnaissance faciale? Est-ce que ça vous inquiète? Vous pouvez nous appeler, Steve et moi, au 514-790-9850 ou à l'extérieur de la ville, 1-866-790-9850. Et Steve Waterhouse, spécialiste en sécurité informatique, et moi, pauvre musicien, vous répondrons au retour de la pause.
Témoignages, échanges, discussions. Jusqu'à midi, vous écoutez Dan Bigra.
Alors, on se pose des questions sérieuses sur l'idée de la reconnaissance faciale. Il y a, évidemment, le côté vie privée m'intéresse beaucoup parce que je trouve qu'on en a de moins en moins, mais il y a aussi le côté sécurité. On sait que la RAMQ s'est fait voler nos données. Desjardins, on a suffisamment parlé. Toutes nos données se sont faites. Mais une fois qu'on a perdu notre visage ou notre empreinte digitale, à un moment donné, je pense que c'est très dur de réagir à ça. Avant ça, Steve, je voudrais que tu expliques à tout le monde qu'est-ce exactement un logiciel de reconnaissance faciale et qu'est-ce que ça permet de faire.
Ça permet, Dan, de pouvoir identifier quelqu'un avec un minimum de probabilité que la personne rencontre qu'est-ce qu'on s'attend qu'elle soit. L'utilisation de la biométrie, c'est une façon de le faire. T'sais, présentement, les gens se servent avec le carte de guichet d'un NIP pour dire que j'ai un moyen physique, j'ai un moyen mental de pouvoir dire c'est moi seulement qui a la carte, ça appartient à moi seulement. Mais la biométrie vient à ce moment-là vraiment conclure que c'est la bonne personne parce que c'est très difficile de forger une identité biométrique, que ce soit la rétine, que ce soit l'iris, que ce soit l'empreinte digitale, la géométrie de la main, du visage, la voix. Ce sont tous des critères avec lesquels vont les renforcer, justement.
Mais si les agences de sécurité ont mon visage, puis ont mes empreintes digitales, puis qu'eux autres se font voler ça, je dirais, NIP, je peux le changer, là, mais je ne me couperai pas le pouce, puis je ne changerai pas d'œil. Là.
Non, c'est sûr, Dan, mais il faut voir qu'ils ne détiennent pas. C'est une représentation mathématique, je devrais dire, de ces empreintes-là. Ils ne détiennent pas l'empreinte comme telle, le dessin, autrement dit, du doigt. Ça ne figure pas dans les systèmes informatiques. C'est okay. Vraiment une représentation mathématique. Et là, ce n'est pas tous les logiciels qui prennent la même algorithme pour être capable de les interpréter. Fait que ça, c'est une autre différence qui existe dans l'industrie. Donc, il y a une petite différence à travers de ça, mais il reste fondamentalement que juste prendre l'identité numérique, par exemple, on serait capable de le sortir de ton téléphone intelligent où tu as mis ton empreinte digitale, mais tu ne pourras pas nécessairement t'en servir comme ça, là, comme tu peux le faire avec un mot de passe, que tu le réappliques ailleurs.
Ah oui, OK. Toi, tu me sens moins réticent que Mme Risky, ça se peut-tu?
Bien, c'est parce que je patauge là-dedans, puis je suis capable de le voir, la différence, la difficulté qu'il y aurait de faire tout simplement la réutilisation d'une biométrie dans un autre contexte. T'sais, autrement dit, on regarde souvent les films, on voit des James Bond de ce monde, être capable de prendre l'œil de quelqu'un puis de se réauthentifier ailleurs. Ça marche pas nécessairement comme ça. Fait que les moyens mécaniques pour être capable de l'atteindre sont pas aussi facilement disponibles que juste la réutilisation d'un simple mot de passe dans un écran.
OK. Admettons, je dis pas que c'est le cas. Je dis pas ça. Admettons que tu as une maîtresse, puis là qu'on te prend, on te prend photo en train de rentrer ou de sortir de chez ta maîtresse. T'es-tu content qu'il y ait quelqu'un qui ait ces données-là? Ta femme va-tu être contente? Je veux dire, il y a des choses que les gens font qui sont peut-être pas correctes, ça se juge à la pièce, mais qui sont pas illégales. Ça, c'est une invasion dans la vie privée, ça.
Exact. Puis de dire après ça, c'est la personne, c'est-tu bel et bien la personne, le sujet d'intérêt qui a vraiment sorti de cette adresse-là à cette heure-là, c'est là que ça vient avec un taux de probabilité parce que ça ressemble en bien des points à cette personne-là. Mais il ne faut pas oublier une affaire. quand que les systèmes de reconnaissance faciale doivent en faire l'analyse, souvent les photos ne sont pas de bonne luminosité. Il y a des ombrages qui viennent masquer certaines caractéristiques du visage qui augmentent la probabilité que ce n'est pas la bonne personne. Donc, le taux d'erreur augmente avec ça. C'est pour ça que, comme disait Mme Marwariski tout à l'heure, les gens avec un fond de teint complexé, donc les peaux plus noires, bien, sont plus difficiles à distinguer par rapport justement à ces jeux de lumière.
OK. On en est là. On va se garder ça là pour tout de suite. Là, je vais écouter des gens. Je leur ai demandé d'appeler. Bien, je veux les entendre. On a Joe au bout du fil. Salut, Joe.
Bonjour, monsieur. Bonjour, Dan.
Bonjour, bonjour.
Je connais un peu M. Waterhouse.
Oui.
Pardon?
Oui, oui. Tu connais M. Waterhouse?
Bien, je veux dire, je le connais. Je l'entends parler à la radio de temps en temps. Ça me surprend de monsieur intelligent comme ça, de l'entendre dire que ça ne l'inquiète pas outre mesure. Ça devrait être dans le top 3 des combats à mener dans les 10 prochaines années, la reconnaissance faciale. On voit ce qui se passe en Chine. On a la chance de voir ce qui se passe en Chine. Je sais qu'on n'est pas la Chine encore, mais tout doucement, on donne le goût du pouvoir à des gens qui sont à la tête des pays, malgré les systèmes qui balisent.
Qui peuvent s'en servir comme arme contre leur peuple, c'est ça?
Absolument. Vous savez qu'en Chine, là, quand j'achète 10 bouteilles de vin parce que je reçois des amis, le système ne le sait pas, ça, que moi, j'achète 10 bouteilles de vin. Ne sait pas que je reçois des amis. Alors, il pense que je suis alcoolique. On m'enlève 2 points, 3 points de mon crédit. Et là, je peux perdre mon emploi quand mon boss sait que je perds des points de crédit. Ben, à un moment donné, parce que moi, j'ai acheté 10 bouteilles de vin, pas parce que je suis alcoolique, parce que je reçois du monde chez moi, le système, lui, qui catalyse ça, dit « Ah, lui, il y a des problèmes de boisson, on va lui enlever 3 points. » Si j'achète des couches, là, ça me donne des points parce que ça veut dire que je m'occupe de ma famille. Mais là, à un moment donné, le système sait peut-être qu'il y a un problème d'incontinence. Quand on collige les informations, ce qu'on a dépensé sur une carte de crédit, où
parce qu'il y a un recoupement d'informations qui se fait aussi. C'est pas juste
exactement.
Une, là.
Exactement. Et Steve, je sais qu'on est à la base ici. On est...
Pardon, oui, on est au début de ça, je comprends bien. Steve, qu'est-ce que tu penses de ça?
J'aimerais rassurer Joe que, premièrement, j'en suis un des premiers défenseurs de la vie privée et du renseignement personnel. Ce que j'ai dit que j'étais à l'aise avec, c'est la technologie, comment est-ce qu'elle fonctionne. Elle est, tant qu'à moi, sécuritaire dans les meilleurs aspects de sa définition. Ce que je suis, comme de M. Joe, préoccupé à mon plus haut point, bien, c'est l'abus de l'utilisation de ces outils-là à des fins malveillantes, à des fins d'abus de pouvoir de par n'importe quelle organisation, que ce soit gouvernement.
Mais justement, dans notre débat de société, on ne peut pas se dire que c'est justement, alors, on met le pied dans la porte, là? C'est pas une ouverture à ça?
Oui, si on l'implémente, et qu'on ne fait pas de débat avant que ça arrive, là, c'est certain. Pareil comme l'utilisation, je disais l'exemple tantôt des centres d'achat, Place Laurier à Québec, à Sainte-Foy, ça a été celui au Québec, on a mis ça en avant-plan, et ils l'utilisent pour documenter de façon bien générique des statistiques sur qui vient là-dedans, mais très peu savent qu'ils sont filmés. Mais les gens, ils s'attendent à ça pour des raisons de sécurité, mais ils ne s'attendent pas pour des raisons de qualification de qui ils sont, et après ça, qu'on leur appose une étiquette de quel genre de clients qu'ils sont.
Il y a une façon que les gouvernements totalitaires ou démocratiques ont une façon de vendre ça, c'est que c'est pour votre sécurité. Puis à un moment donné, c'est quoi la ligne où est-ce qu'on accepte de peut-être moins de liberté pour plus de sécurité, puis où est-ce qu'on on risque de se ramasser avec aucun des deux?
Le meilleur exemple, c'est en septembre 2001.
Oui.
Ça a été le coup de barre pour dire « Hey, on se protège mur à mur contre d'éventuelles recrudescences d'attaques terroristes. On se bloque des droits pour être capable de prendre l'avion. » Tabarouette.
Oui, sauf que je m'excuse, mais le gouvernement Bush est informé avant que ça arrive. Oui. Et puis, c'était pas léger. Le titre du rapport qui a été soumis à son gouvernement, c'était « Al-Qaïda s'apprête à nous attaquer ». À un moment donné, c'était comme clair ce qui s'en venait. Donc, l'information crée pas nécessairement le bon mouvement de protection pour aller avec. Et puis, on s'est aperçu que, justement, ce gouvernement s'en servait plus pour surveiller son peuple. On l'a vu avec le scandale de la NSA. Oui. On l'a vu avec toutes ces choses-là. C'est à très, très double tranchement. Et selon moi, ça prend pas juste un débat de société. Ça prend vraiment un organisme de surveillance complètement indépendant et très, très, très dur pour éviter les abus. Si jamais on va là, puis même moi, j'ai un doute. Moi, je suis du côté de Mme Risky là-dessus. Là.
Oui, puis ayant été de l'autre côté du rideau, ayant travaillé avec ces informations-là, je veux dire, les gens qui y travaillent apportent toute l'information et toutes les observations qu'ils font sur le terrain, amènent ça aux éléments dirigeants, donc à la partie politique, puis eux autres prennent des décisions en fonction de cette information-là, mais souvent, c'est une mauvaise éducation de la partie des gens qui sont en politique, qui ne savent pas quoi faire avec cette information-là, puis ils vont aller avec la seule affaire qu'ils savent, c'est-à-dire l'opinion populaire. Bon, on va prendre la meilleure décision pour l'opinion et non pas pour, encore une fois, les faits qui sont présentés. Là.
Oui, puis encore là, l'opinion, on prend l'opinion du moment, puis on se préoccupe pas de comment ça va être dans 5 ans. On a un autre appel. Je te garde avec moi, mon Steve. On a Gérald. Bonjour, Gérald.
Bonjour, Dan. Moi, ça ne m'inquiète pas pour autant, parce que c'est un complément pour rajouter à la sécurité. En tant que consommateur ou en tant que citoyen, sachant qu'il y a un complément de sécurité qui est utilisé, ne serait-ce que pour des transactions bancaires, ne serait-ce que pour les procédés d'identification quotidiennes, j'ai aucune inquiétude là-dessus. Maintenant qu'il y a un organisme qui va veiller à l'application ou à l'interprétation des mesures imposées par la biométrie, ce serait une suite de sécurité additionnelle. Je ne pense pas qu'au Canada, qu'on puisse, comme un interlocuteur précédent le mentionnait, je ne pense pas qu'on puisse se comparer à la Chine en termes de protection de la vie privée. Ce qui importe, c'est la protection des renseignements personnels, parce que présentement, c'est un fléau, c'est un système de fraude qui empeste notre vie quotidiennement, parce qu'à chaque fois qu'on fait une transaction bancaire ou une carte de crédit, peu importe, à chaque fois qu'on utilise un média électronique, on a toujours la crainte que nos informations soient galvaudées et puis utilisées.
Mais soient utilisées contre nous aussi.
Contre notre gré. Fait que je ne suis pas inquiète. En tant que consommateur, en tant que contribuable, en tant que citoyen, je m'en inquiète pas pour autant. Autant qu'il y a des paramètres très, très clairs qui sont établis.
Des mécanismes de surveillance.
Et des mécanismes de surveillance, absolument.
OK. Ben merci beaucoup, Gérald. Steve, c'était très intéressant. Je suis content d'entendre le point de vue de tout le monde. Moi, je marche en eau trouble avec ça. Je suis jamais très, très rassuré. Mais justement, ça va faire partie du débat qu'il faut avoir. C'est pas vrai qu'on est pas assez vite personne pour comprendre les tenants aboutissants de ça. C'est vrai si on n'est pas informé, mais il faut s'informer. Merci beaucoup, Steve, de toi nous avoir donné ton avis. C'est important.
Toujours un plaisir, Dan, n'importe quand.
Bonne journée, c'est Steve Waterhouse qui est spécialiste en sécurité informatique. Au retour, seriez-vous en faveur d'une semaine de travail plus courte? Parce que là, ça s'en vient sur les bureaux d'un petit peu tout le monde. Alors, vous pouvez m'appeler au 514-790-9850 ou hors de la ville, 1-866-790-9850. On va en discuter au retour et on va aussi avoir notre résumé du point de presse du premier ministre du Canada avec Valérie Leboeuf, qui est journaliste de Cogeco Nouvelles après la pause.